Bonjour à tous nos auditeurs, je suis Karim.
Bienvenue sur Radio B, moi c'est Anthony.
Bonjour, je me présente, je suis Cameron.
Bonjour, je m'appelle Ludovic.
Je suis Ermir, bienvenue.
Aujourd'hui, nous allons parler de Bourg-en-Bresse.
Son histoire, sa gastronomie et le sport.
C'est parti les gars, c'est maintenant que tout commence.
Karim et Ermir vont faire un bond dans le passé de Bourg-en-Bresse.
Karim, quand a été créé Bourg-en-Bresse ?
On peut remonter à l'époque gallo-romaine. Il y avait deux zones. Un village autour d'un fanum consacré au dieu qui se situait à Brou et l'autre partie autour d'un château.
Qui était le sire de Bagé ?
C'était un voisin. Il s'est peu à peu installé aux alentours de Bourg qui a pris possession de la ville.
Et alors, qui est le lien entre le sire de Bagé et la maison de Savoie ?
La Savoie est un royaume grand et fort. Ils voulaient agrandir leur territoire. Bourg-en-Bresse est un lieu stratégique au carrefour de plusieurs routes. La maison de Savoie n'a pas fait la guerre pour conquérir ce territoire. Ils ont fait un mariage entre la fille du sire de Bagé et le comte de Savoie.
En quelle année ça s'est passé ?
En 1272.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
C'est une période prolifique pour le commerce. Les marchés se développent ainsi que les habitations. Le comte de Savoie va même s'installer à Pondin en 1460.
Quelle histoire a marqué Bourg-en-Bresse à cette époque ?
C'est celle de la construction de l'église et du monastère de Brou. À l'origine, il y a le mariage entre le duc Philibert de Savoie et Marguerite d'Autriche.
Peux-tu nous situer Marguerite d'Autriche rapidement ?
Marguerite d'Autriche est la fille de Marie de Bourgogne et de Maximilien Ier de Habsbourg, archiduc d'Autriche. C'est l'une des nobles les plus importantes en Europe à l'époque.
Et que se passe-t-il ?
Ils vivent ensemble à Pondin. Marguerite est enfin heureuse après deux mariages malheureux. Leur amour est fort. Philibert se lance dans la construction de l'église de Brou pour créer le tombeau de sa mère. Malheureusement, il meurt après une journée à la chasse. Et Marguerite finira la construction du tombeau de sa belle-mère et son mari. Elle respecte le souhait de son mari.
Et que devient de Bourgien ?
Le royaume français reconquiert ce territoire entre 1536 et 1559. François Ier fait même construire une enceinte. Les Savoyards reviennent jusqu'en 1601.
Que devient la capitale administrative ?
C'est le traité de Lyon. La Bresse est rattachée au royaume de France.
Au XVIIIe siècle, que s'est-il passé sous la règne de Louis XV ?
La ville change complètement. Les vieilles enceintes sont abattues et on construit de nouveaux édifices. On compte 7000 Bourgiens. La révolution de 1789 élève la ville au rang de chef-lieu de département.
Au XIXe siècle, il y a des grands changements dans la ville. Les zones agricoles se transforment.
Oui, c'est l'arrivée du chemin de fer. La ville double sa surface.
La révolution industrielle arrive même en Bourg-en-Bresse. Ça bouge.
Les villageois partent vers les usines. La population augmente et de nouveaux quartiers prennent forme.
Bourg s'émancipe. Elle traverse les années. En plus d'être le carrefour entre des grandes villes, elle devient une pôle d'attraction dans les commerces, les services et dans le secteur industriel et agroalimentaire.
Et ça tombe bien. Ludovic et Cameron se sont intéressés à la gastronomie bressane.
On reçoit le journaliste culinaire Tom Fournier.
Bonjour Tom Fournier, vous êtes journaliste culinaire. En deux, trois mots, en quoi consiste votre métier ?
Alors mon métier est assez simple. L'idée est de parler de tous les sujets qui concernent la gastronomie, ce qui se mange, ce qui se boit d'une façon générale. Ça va être autour des restaurants, ça va être autour des produits, autour des agriculteurs, des producteurs. Tout le travail qui va se faire depuis la terre, depuis la nature, jusqu'au moment où on va le consommer. Donc ça va toucher aussi toute la culture produit, toute l'histoire aussi des produits, des appellations et des choses comme ça. Quoi.
Par exemple, sur quel sujet portait votre dernier article ?
Alors mon dernier article, il est très récent parce qu'il était hier soir. Je suis allé visiter un restaurant dans le pays de Gex, sur les hauteurs de Gex, qui a une terrasse panoramique avec vue sur le Mont Blanc, et qui était fantastique. Et pour le coup, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur des restaurants comme ça, parce que il y a une démarche touristique autour de ça. On est juste à côté de la Suisse. C'est aussi une image de la France qui est donnée à ce moment-là. Et l'objectif était de goûter la cuisine, de parler du lieu et un petit peu de tout ce qui se faisait autour de ça, autour des vins.
On a choisi dans notre émission de parler de Bourg-en-Bresse. Quelles sont les spécialités gastronomiques ici ?
Alors, des spécialités, pour le coup, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont très connues à l'international, d'autres qui sont assez locales. Il y a les volailles de Bresse, ça c'est évident, crème et beurre de Bresse qui sont AOC également pour les deux. On a aussi de la canette, on a de la farine de maïs, on a de la truite d'élevage, On a des escargots, on a beaucoup, beaucoup de choses. On a eu aussi beaucoup de choses, que ce soit des grenouilles qu'on a eues pendant très longtemps dans la région de la Dombes. On a eu également des écrevisses dans le lac de Nantua qui était à proximité. On a eu beaucoup de produits comme ça à travers le temps qui ont marqué notre culture. Et on a aussi tous les marqueurs de Lyon qui est juste à côté, avec beaucoup de spécialités qui sont en rapport avec notre cuisine aujourd'hui aussi.
Quelles sont les différentes et particularités des volailles de Bresse ?
Alors les volailles de Bresse, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet depuis qui a haussé depuis 1957 de mémoire. Et il y a plusieurs volailles déjà. Il y a le poulet de Bresse, la poularde, le chapon et la dinde. On a quatre volailles qui rentrent dans l'appellation. Et ces quatre volailles ont un élevage très particulier. L'idée, c'est d'accorder le plus de liberté possible et le plus de confort possible à l'animal. Si on doit manger un poulet, quel qu'il soit, quelle que soit la provenance, il va y avoir à chaque fois des cahiers des charges qui vont être fixés souvent par des industriels ou par des petits producteurs. Là, il y a un cahier des charges, donc AOC, qui a été cadré de manière à ce qu'on puisse avoir un produit qui soit élevé d'une certaine façon. Donc il y a beaucoup de place qui leur est accordée. Il y a une nourriture particulière qui est garantie sans OGM, avec beaucoup de graines, avec beaucoup de maïs notamment, ce qui amène aussi à la farine de maïs, la farine de gaude. Il y a beaucoup de choses qui sont cadrées comme ça, et surtout une variété de volaille, qui est la Bresse gauloise, et qui a la particularité d'avoir les pattes bleues, le pelage blanc et la crête rouge. Donc on revient au bleu, blanc, rouge. Vraiment le côté cocorico.
Pourquoi le beurre et la crème de Bresse ont le label AOP ?
Alors pourquoi ? C'est le même fonctionnement en fait. C'est un cahier des charges qui a été fixé. Pour le coup, qui est beaucoup plus récent, puisque les beurres et crèmes de Bresse, ça date de 2012. Ils ont mis à peu près 13 ans avant de réussir à avoir l'appellation. Et pareil, il y a un cahier des charges, il y a une zone d'appellation qui couvre à peu près 50 km autour de Bourg, enfin 50 km autour d'Étré, plutôt, pour être précis. Étré et Foissia, qui sont un peu le berceau de la crème de Bresse et du beurre de Bresse. Et on retrouve là-bas donc des unités de fabrication, des usines de fabrication, qui utilisent tout le lait qui vient de ces fermes qui sont en AOC. Et qui va fabriquer le beurre de Bresse, la crème épaisse et la crème semi-épaisse qui rentrent les trois dans l'appellation, quoi. Avec des niveaux de matière grasse qui vont être différents et des goûts qui vont être différents en fonction des choses qui seront ajoutées à la recette.
Quels sont les meilleurs fromages de la Bresse ?
Malheureusement, au niveau fromage en Bresse, on n'a pas forcément beaucoup de choses. On a beaucoup de fromages à proximité, par contre. Bourg-en-Bresse, on dit toujours que c'est près de tout, loin de rien. Donc on a tous les fromages qui sont autour. On a le Bresse bleu, évidemment, qui est fabriqué à Servas, mais qui est sur une production qui est un petit peu éloignée aujourd'hui du côté petit producteur, sourcing précis, etc. Par contre, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a du bleu Gex à proximité, donc pour le coup du côté de la Suisse. On a du Comté qui est juste à côté, on a la Haute-Savoie et la Savoie qui sont juste à côté aussi, on a la Bourgogne à proximité, on a énormément de fromages au fait qui viennent se greffer un petit peu autour. En local, ça va être un petit peu plus limité, mais on n'est pas sur une zone qui permet de fabriquer ça. À l'inverse, chose qui est méconnue, l'usine d'Étré, la laiterie d'Étré, fabrique de l'emmental. Avec le lait qui provient de fermes qui sont dans un rayon de 50 km, qui est commercialisé aussi un petit peu en dehors de la région, mais les gens n'ont pas forcément connaissance que de l'emmental est produit ici, quoi.
Quel type de pâtisserie on peut faire avec la crème et le beurre de Bresse ?
En fait, il faut faire des pâtisseries qu'avec de la crème et du beurre de Bresse. C'est plus simple. Non, beaucoup de choses. L'avantage qu'il peut y avoir entre la crème épaisse et la crème semi-épaisse, c'est que la crème semi-épaisse a un niveau d'acidité beaucoup plus bas que la crème épaisse. Donc la crème épaisse est souvent utilisée en cuisine, l'acidité va venir casser le gras, et la semi-épaisse, beaucoup plus douce, beaucoup plus neutre, va être utilisée en pâtisserie. Donc après, ça peut être utilisé de plein de façons différentes, ça peut être utilisé pour faire des gâteaux, pour être ajouté dedans. On peut retrouver aussi la tarte à la crème, qui est une spécialité locale, qu'on retrouve dans beaucoup de pâtisseries dans le coin, qui est vraiment un classique. Donc c'est une pâte toute simple. Enfin, on est quasiment sur le côté nature, quoi. De la pâte, de la crème, c'est ça qui est valorisé, quoi, vraiment. Et après, si on tourne autour du produit laitier, il y a plein de choses à faire. Le restaurant de Johan Chapuis à Tournu, par exemple, avait fait une déclinaison autour du lait, où il utilisait le lait dans toutes ses textures et dans tout ce qu'il pouvait offrir. Ça allait de la confiture de lait faite maison à une tuile qui est réalisée avec le petit voile qui se forme sur le dessus du lait quand on le laisse à température ambiante. Il réutilisait ça, qu'il faisait sécher au four, et il faisait une tuile pour mettre dessus. Donc on peut aller extrêmement loin. Après, tout est dans la technique et dans le savoir-faire, quoi. Mais bon, aller voir un pâtissier pas très loin et puis commander un gâteau, c'est bien aussi, quoi.
On a vu sur le site de l'Office du Tourisme qu'il y avait du piment en Bresse. Comment ça se fait ?
Alors, le piment de Bresse, c'est une histoire particulière parce que c'est un produit qui a déserté la Bresse, en fait, pendant un temps, qui a commencé à être un petit peu réintégré ces dernières années. Pour ma part, par exemple, j'ai eu connaissance de l'existence du piment de Bresse par un ami d'Aix-en-Provence, quoi. Et c'était quelque chose qui avait un petit peu déserté la région. Après, le piment... Si vous prenez le poivron, par exemple, le poivron, on l'a appelé comme ça quand on l'a découvert en Amérique, parce qu'il avait une forme qui était un petit peu différente, des piments assez fins, assez élancés, mais pour autant, c'est une variété de piments. Donc on a des piments locaux, c'est des choses qui ont été intégrées au fur et à mesure des conquêtes qu'on a pu faire un petit peu dans le monde et des découvertes, donc c'est pas forcément très étonnant, quoi. Au même titre, dans les produits originaux, on a du safran aussi, à côté de 20 minutes de Bourg-en-Bresse.
Quel plat on peut cuisiner avec le piment de Bresse ?
Tous les plats à base de piment. C'est pas forcément le piment qui est le plus fort de tous ceux qu'on connaît. Ça peut être utilisé de plein de façons sur des plats à consonance estivale. Si vous faites une ratatouille, une poêlée de légumes, des choses comme ça, ça peut venir rehausser un petit peu tout ça. Il s'accordera pour le coup très bien avec la volaille. Donc on revient sur le côté volaille de Bresse, le fait d'amener un petit peu de piquant éventuellement avec des herbes fraîches, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Il y a tout un tas de façons de le cuisiner, et c'est aussi une façon d'amener une touche locale dans les cuisines orientales, ce qui peut être intéressant aussi, de dire on va faire une cuisine qui vient d'ailleurs, dont les origines viennent d'ailleurs, avec du piment par exemple, avec du safran, pourquoi pas, puisqu'on en retrouve aussi au Moyen-Orient. Et dans la cuisine de tous ces pays-là, et de venir faire cette cuisine-là avec des produits qui viennent d'ici, quoi. Ça permet de faire un petit peu le pont entre les cultures et entre les gastronomies.
C'est quoi les bréchets de poulet ?
Le bréchet de poulet, c'est en réalité une déformation de langage. On dit bréchet de poulet qu'ici, en fait, qu'à Bourg, la Bresse et tout le secteur qui va être autour. C'est ce qu'on appelle plutôt des fourchettes de poulet. Donc c'est la partie qui est en forme de V. Qui va se retrouver à la base du cou. Et le bréchet, en réalité, quand vous avez un poulet, on va imaginer le poulet prêt à cuire plutôt que de l'imaginer vivant, ce sera plus simple, il bougera moins. Mais c'est toute la partie un petit peu pointue qui se retrouve sur le dessus, ça va être le bréchet. Donc les fourchettes de poulet, c'est quelque chose qui se cuisine depuis très longtemps ici. On le fait majoritairement à la persillade, donc cuite avec du beurre moussant. Et en fin de cuisson, on va ajouter du persil et de l'ail pour amener une aromatique qui va être vraiment prenante et qui va se servir dans beaucoup de restaurants local qu'on consomme avec les doigts. Et ce qu'on a appelé longtemps aussi l'os à souhait, c'est-à-dire qu'on arrivait à faire un souhait au moment d'écarter les deux os jusqu'à ce qu'ils cassent. Et on imagine que le souhait va se réaliser. Enfin, si le souhait c'est d'avoir une deuxième assiette, on a juste à le demander, c'est plus simple.
Dans quel plat peut-on mettre le clon, le fromage des rois ?
Encore une fois, il y a plein de versions de l'histoire. On peut le consommer seul aussi. Le fait d'avoir des fromages qui sont très aromatiques en cuisine, ça va forcément pas bloquer, mais ça va limiter le champ des possibles. Vous pouvez le consommer seul. Ça peut être utilisé sur des gratins aussi. Encore une fois, quand on a un fromage puissant, le fait de le faire gratiner, de le faire chauffer, de le cuisiner, on va diminuer l'humidité et on va augmenter la puissance aromatique. C'est quelque chose avec lequel il faut être quand même assez prudent, parce que quand on a des fromages qui ont passé un petit peu de temps aussi au réfrigérateur, on a tendance à avoir des petites bombes aromatiques qui peuvent, qui peuvent embêter les voisins, on va dire.
Pouvez-vous nous parler de Gaude ?
Les Gaudes, c'est à la fois une culture et un traumatisme, on va dire. Il y a, à une époque, c'est de la farine de maïs torréfié. Donc on trouve le côté un petit peu grillé, potentiellement un petit peu pop-corn aussi, en termes de goût. Mais pendant de longues années, c'était le cas de mes parents, par exemple, notamment de ma mère, qui a mangé beaucoup de gaude. Donc on appelait ça les gaudes. Donc c'est de la farine de gaude mélangée à du lait. Ça donnait une espèce de bouillie qui tenait vraiment au ventre et qui permettait de nourrir les enfants sans payer trop cher, quoi. Et donc on mettait un plat de gaudes au milieu de la table, et puis à la fin, une fois que tout le monde avait mangé des gaudes et on pouvait plus du tout, on sortait quelque chose d'un peu plus sympa à manger, quoi. Donc c'est à la fois très culturel, et ça participe à la culture dont on parlait tout à l'heure avec la volaille de Bresse qui mange du maïs. Les Bressans, on les appelle souvent les ventres jaunes. Il y a ce côté vraiment proche du maïs, puisqu'on a eu beaucoup de plantations de maïs ici, et on en a encore pas mal. Donc la farine de gaude, oui, il y a ce côté historique que les moins de 30 ans ou de 40 ans peuvent pas trop connaître non plus. Le côté bouilli dans l'assiette, tu manges et puis c'est tout. Pas forcément très drôle. Et puis il y a plein d'utilisations à en faire aujourd'hui, quoi. Donc dans des préparations, dans des gâteaux, dans plein de choses qui peuvent amener justement ce côté torréfié, ce côté pop-corn qui peut être super sympa dans des préparations, quoi.
Merci à vous, Tom Fournier. Je rappelle, vous êtes journaliste culinaire.
Eh bien, merci à vous pour votre accueil, pour votre intérêt pour la cuisine, pour la gastronomie et pour notre belle région.
Après les bons petits plats, on passe au sport.
Eh oui, il faut bien éliminer la crème et le beurre.
Il y a trois grands clubs sportifs professionnels à Bourg.
L'USBPA pour le rugby, le FBBP pour le foot et la JL Bourg.
Bourg-en-Bresse est une grande terre de basket avec son club emblématique, la JL Bourg. Le club célèbre ses 24 ans de professionnalisme, une véritable évolution depuis sa création en 1947. Un premier titre de champion de l'Ain en 1956 et de France en 1961. En 1997, ils atteignent la Pro B grâce aux prouesses de Crawford Palmer. Il rejoindra d'ailleurs l'ASVEL ensuite et gagnera même une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney après sa naturalisation française. Et en 2001, le niveau ultime, la montée en Pro A. On peut citer le travail d'Alain Tinet, le coach, et de Gérald Simon, l'assistant coach. Frédéric Sarr rejoint le club en 2004 en tant que coach. Il marque une nouvelle ère, c'est la première fois que la JL accède aux playoffs. C'est le tournoi de fin de saison pour les 8 meilleurs. La JL est considérée comme le petit pousset et sera la surprise de l'année. La saison 2007-2008 marque le virage américain de la JL avec Jean-Michel Sénégal et le showman Karim Reid. La JL redescend en Pro B. En 2011, de gros changements pour le club, nouveau président, nouveau coach, un vrai objectif et une salle en vue, Equinox. En 2013, l'équipe est stabilisée, Simon Darnozan en est la figure emblématique, et l'équipe remonte en Pro A et redescendra aussitôt, en remportant tout de même la Disneyland Paris Leaders Cup. Pour ces dernières années, le joueur emblématique c'est Zach Peacock. Son duo avec Savo Vucevic est mythique, et petit à petit, la JL retrouve la Pro A dans une salle magique. Zachary Peacock est nommé deux fois MVP, meilleur joueur du championnat. Aujourd'hui, la JL est toujours en Pro A et joue même l'Eurocup. Ce sont les 16 meilleurs clubs européens. Le nouveau coach, c'est Frédéric Fautou. Le club entame une saison chargée dès le départ, avec d'un côté l'Eurocup et de l'autre côté le championnat. Pour les encourager, rendez-vous à Equinox.
On espère que cette émission vous a plu et vous a permis d'apprendre des choses.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à notre invité.
Et à la prochaine sur Radio B.